Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Cet épisode est consacré aux questions posées par le soin de la SLA. En 2011, notre collègue Michel Fournet est décédé de la SLA. Il était enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'université Jean Jaurès. Cet épisode est dédié à sa mémoire. La sclérose latérale amyotrophique, la SLA, est aussi appelée la maladie de Charcot, du nom de Jean-Martin Charcot qui a été l'un des premiers Français à décrire cette maladie en 1860. On l'appelle aussi la maladie de Lou Gehrig, du nom d'un athlète, icône du baseball américain des années 30, qui a fait connaître dans le monde anglophone cette maladie dont il souffrait. Dans un célèbre discours de 1939, disant qu'il se considère comme l'homme le plus chanceux de la Terre, Lou Gehrig dit adieu à son public après avoir reçu son diagnostic. C'était sa dernière apparition publique. La SLA est une maladie neurodégénérative sans aucun traitement curatif à ce jour. Cette maladie se déclare le plus souvent entre 50 et 70 ans. Elle entraîne une paralysie progressive parce qu'elle attaque les motoneurones, c'est-à-dire les neurones qui contrôlent les muscles. Et elle finit par provoquer le décès de la personne qui en souffre, en particulier en raison de l'insuffisance respiratoire causée par l'affaiblissement du diaphragme. Dans cette maladie rare, on parle en France de 2,4 cas pour 100 000 personnes. La SLA a fait l'objet depuis quelques années d'une mobilisation pour la faire connaître et pour soutenir financièrement la recherche avec le Ice Bucket Challenge qui a été lancé sur les réseaux sociaux il y a 10 ans, en 2014, par le joueur de baseball américain Pete Fratz, et qui a ensuite été suivi par de nombreuses personnalités comme Mark Zuckerberg, Bill Gates ou Oprah Winfrey. Et ce challenge a été relancé il y a quelques semaines en France sous le nom de Défi Givré par Olivier Goy qui souffre lui-même de la maladie. Mais la SLA est aussi régulièrement mise en avant pour plaider en faveur d'une loi sur l'euthanasie. Alors, est-ce que la SLA doit devenir l'emblème de la perte de sens de l'existence, de l'enfermement dans son corps ? Est-ce que la perte des fonctions motrices est forcément vécue par les malades comme une perte de dignité ? Cette manière de voir la SLA, et la maladie en général, nous interroge sur notre manière de penser notre existence, notre manière de croire que le sens vient de l'activité et du contrôle sur nous-mêmes. La valeur que nous donnons à la vie en tant que performance dans notre société est-elle si fondamentale ? Peut-être que vivre, ce n'est pas toujours performer. Peut-être que les malades de la SLA peuvent avoir des attentes différentes et penser différemment le temps, le corps et les relations. Pour comprendre les particularités de cette maladie et nous interroger à son propos et à propos de son accompagnement, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Dufault, qui est infirmière coordinatrice d'un centre ressources de la SLA et des maladies du motoneurone au CHU de Toulouse, et Harmonie Lefebvre, qui est psychologue clinicienne et psychologue de la santé. Elle consacre une partie importante de sa pratique au centre ressources SLA pour le soutien des patients et de leurs proches. Bienvenue à toutes les deux.
Bonjour et merci.
Sophie, je me tourne vers vous pour cette première question. Vous intervenez toutes les deux dans le centre de ressources et compétences de la SLA et des maladies du motoneurone du CHU de Toulouse. Il s'agit d'un centre de référence régional qui a un équivalent donc dans chacune des autres régions françaises. Je vous propose pour commencer de nous expliquer ce qu'est ce type de centre et pourquoi ils ont été créés.
Alors, ils ont été créés afin de répondre à l'urgence que revêt la maladie, donc la SLA, qui engage le pronostic vital de la personne atteinte à court terme et génère en générant des situations de handicap toujours plus importantes. Donc, ces centres ont été créés par le ministère de la Santé et à l'initiative de l'ARSLA, qui est l'association nationale de la SLA. Il y a plusieurs, je crois qu'il y a bien 20 ans que ça a été, que les premiers centres ont été créés. Il y en a maintenant 24 en France, 24 centres, et ils permettent d'améliorer notamment l'accès au diagnostic et d'accompagner à l'annonce de la maladie. Ils assurent aussi le suivi pluridisciplinaire dont le patient a besoin, dont les situations cliniques sont complexes et continuellement évolutives. Ils permettent aussi également d'assurer un transfert des connaissances et savoir-faire auprès des acteurs de proximité, les médecins généralistes et les paramédicaux, les patients et ainsi que leurs familles, pour pouvoir vraiment adapter au mieux les conditions de vie. Il y a aussi du coup une mission de recherche. Les centres peuvent s'investir dans des programmes de recherche clinique sur la maladie avec des essais thérapeutiques et les proposer du coup aux patients qui sont suivis sur les centres.
D'accord.
Par contre, chaque centre en France vraiment a un fonctionnement qui lui est propre avec une grande diversité dans les équipes qui les composent. À Toulouse, on est plusieurs intervenants de disciplines, donc diététiciens, ergothérapeutes, kinés, infirmiers, neurologues. Ce qui n'est pas le cas dans tous les centres, ça dépend vraiment de chacun. Les fonctionnements diffèrent aussi et donc les pratiques également. On essaye régulièrement d'avoir un lien avec tous les centres et de pouvoir mettre en commun nos façons d'accompagner les patients, nos pratiques. Il y a 2 jours de congrès par an qui permettent de vraiment échanger.
À l'échelle nationale.
Okay. Ouais. Et avant ça, pour préparer cette journée, par exemple, nous, les infirmières des centres, on se retrouve aussi 2 jours pour garder ce lien, échanger sur les pratiques, les avancements de certains, des projets qu'ils auront fait et pouvoir partager et que les autres puissent en bénéficier.
Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire, c'est ça que je comprends de votre réponse. Et le centre, les professionnels du centre en tout cas sont présents dès l'annonce, c'est-à-dire le moment de l'annonce.
Ça dépend aussi du patient. On va dire de l'annonce diagnostique. Comment se passe cette annonce diagnostique? Généralement, nous, la façon dont on est organisé, c'est le médecin qui gère cette annonce lors d'une consultation ou en hospitalisation, le temps que le patient ait fait son bilan avec les examens pour faire le diagnostic. Nous, derrière, on attend en fait qu'il y ait un besoin et que le patient soit prêt, en fait, aussi. On essaye toujours de faire, le médecin, un peu cette évaluation. Et s'il estime que, quand même, dans le quotidien du patient, c'est important qu'on puisse intervenir, donner des conseils assez précocement pour l'aider. Et tout dépend déjà de l'avancée de la maladie, bien sûr, aussi. Donc, mais on se tient. Disponible.
Oui.
En gros, s'il y a un diagnostic, ce que peut demander le médecin, c'est au moins que moi je me présente, présenter le centre, apporter certaines informations sur la maladie, comment on fonctionne, comment le suivi va se dérouler, et après leur dire qu'on est là surtout en fait, et qu'ils ne seront pas seuls, et qu'on se tient disponible même entre chaque visite et chaque bilan. Qu'ils ont des numéros de téléphone et qu'on est là pour ça.
Finalement, le diagnostic de SLA, il a lieu, selon les patients, j'imagine, à des étapes tout à fait différentes. Et dans la plupart des cas, le patient, il reçoit son diagnostic, il rentre à la maison.
Ça dépend.
Il faut savoir que déjà, faire le diagnostic, ça peut être long. Parce qu'en fait, pour réussir à aller vers un diagnostic de SLA, il faut écarter un certain nombre d'autres pathologies. Moi, j'ai en tête à peu près 1 an pour réussir au travers des différents examens à venir écarter du coup un certain nombre de ces pathologies qui, au final, amènent l'entonnoir jusqu'à le diagnostic de la SLA. Donc déjà, il y a quand même une forme de cheminement du patient qui se fait au travers de l'ensemble des examens qu'il va devoir passer et sur lesquels il va du coup être accompagné. Et après, effectivement, on essaye un peu de s'ajuster au cas par cas parce que chaque personne va avoir un vécu de cette annonce qui va être extrêmement différent. On va avoir autant des personnes qui peuvent être très demandeuses d'informations, qui peuvent aller vraiment dans une anticipation très lointaine de l'évolution de la pathologie. A contrario, on peut aussi avoir des personnes dont le niveau d'anxiété va être tel que, en fait, rien que l'accueil de l'information est déjà assez suffisant dans la charge émotionnelle que ça pose pour avoir en plus d'autres informations derrière qui relayent sur qu'est-ce que va être la potentielle évolution et l'accompagnement de cette maladie.
Et justement, Harmonie, quand on entend le discours de Lou Gehrig, qui remercie son public pour la dernière fois, finalement c'était un adieu hein, qu'il adressait à son public, on comprend que le diagnostic de SLA, c'est un diagnostic qui fait basculer une vie. Alors, une des particularités de la SLA, c'est que entre le moment de l'apparition des premiers symptômes et le moment où on vit cette maladie comme un véritable handicap, la période peut être plus ou moins longue, la perte de capacité peut être plus ou moins progressive, mais le diagnostic lui-même, il laisse peu d'espoir. J'imagine que pour celui qui reçoit l'annonce de ce diagnostic, son temps, son corps sont envahis par la maladie en quelque sorte, c'est-à-dire tout est questionné, tout est pareil et différent en même temps, quoi, quelque chose comme ça. Et on parle d'abord, j'ai lu qu'on parlait d'une forte fréquence de syndrome dépressif suite à cette annonce. Donc comment ça se passe l'accompagnement de ce choc de l'annonce ?
Alors dans les retours hein, qu'on peut avoir, effectivement, les patients nous parlent souvent d'un avant et d'un après. Mmh. Comme si effectivement l'annonce avait été le début d'un changement qui était tellement extrême dans leur esprit que leur vie du coup se veut différente déjà dans leur esprit à partir du moment de cette fameuse annonce.
Mmh. C'est comme un switch.
Exactement. Alors, on parle de choc, on parle de tsunami. Encore une fois, chaque personne va le vivre avec sa manière, avec son histoire, avec ses fragilités, avec ses forces, avec ses ressources. Je crois que là-dessus, c'est délicat de faire différemment qu'au cas par cas. Mm-hmm. Ce qu'on essaye de mener, c'est qu'en fonction, bien évidemment, toujours des besoins que l'on reçoit, on tend à proposer déjà un espace de parole, mm-hmm. parce que déjà ça permet de remettre un peu en considération la notion de temporalité chez le patient, mm-hmm. de revenir là où on est dans le présent pour lui permettre déjà de reprendre pied et de se resécuriser, mm-hmm. de pouvoir aborder des craintes qu'il peut avoir, de pouvoir commencer en tout cas dans un premier temps d'avoir un vrai moment de soutien pour lui. Mm-hmm. Et encore une fois, ça va encore dépendre car tout le monde n'en aura pas forcément besoin. Mais en tout cas, c'est ouvert et je crois que c'est important que la personne soit informée que ça peut exister.
Donc c'est un fonctionnement à la demande du patient finalement, c'est ça que je
comprends. Oui, on va proposer, ou le médecin lors de la consultation d'annonce aura perçu ce besoin aussi. Mmh. Et donc il nous demande d'organiser ou de voir avec le patient si ça l'intéresse de faire donc une post-annonce.
Mmh. Donc reprendre avec lui.
Reprendre avec lui, voilà, au bout d'un mois.
D'accord.
Parce qu'il y a ce temps aussi d'accueillir le diagnostic, de ne pas être juste assommé par l'annonce.
Oui.
Et souvent, il y a ce temps où ils sont complètement sidérés, ils nous le disent, où même ils ne se souviennent pas de toutes les informations qu'ils ont eues à ce moment-là. Et ça dure un moment. Donc le temps de ressortir un peu la tête de l'eau et de pouvoir entendre de nouveau des informations qui vont les aider, il y a ce temps-là. Un mois, peut-être un peu plus, et on s'organise avec eux pour pouvoir organiser ce temps-là.
Et ensuite, lorsqu'il y a une hospitalisation, puisque dans la progression de la maladie, j'imagine que y a l'hospitalisation à domicile qui est possible, je suppose, mais il y a parfois une hospitalisation à l'hôpital, ça dépend sans doute des cas, j'imagine. Là aussi, vous intervenez auprès des patients hospitalisés ?
Pareil, c'est à la demande, ça dépend de quelle hospitalisation aussi, mais on a un service de neurologie où ils viennent quand même souvent, service traditionnel, et on est en lien vraiment avec eux et on va les voir régulièrement s'il y a besoin, si effectivement Harmonie peut aller les voir parce qu'il y avait ce lien déjà de fait depuis le départ et qu'une nouvelle hospitalisation peut engendrer des questions sur le devenir, quelles décisions prendre sur certaines choses. Et de la réflexion derrière, ça crée aussi de la crainte, de l'angoisse supplémentaire.
Oui.
Donc on peut aussi nous demander d'apporter des informations, un soutien psychologique, une réévaluation par exemple par le kiné, besoin peut-être d'apporter aussi du matériel adéquat et à la maison, donc on fait passer l'ergothérapeute.
Mmh.
Donc oui, les hospitalisations sont ce moment en fait de réactualiser et refaire le bilan de ce qui se passe. Mais de manière générale, après, même à hospitalisation à domicile, pas forcément, mais en gros, tous les moyens sont mis en place pour que le patient reste le plus facilement à la maison.
D'accord.
Que ça ne soit pas une obligation, dans leur esprit ou dans l'esprit de l'entourage, que le patient doit être hospitalisé parce qu'il est malade. C'est pas ça. C'est vraiment spontanément, et les médecins ont pu le remarquer. Ce qui leur va le mieux, c'est d'être chez eux, dans un milieu qui leur convient, qui les sécurise. Les hospitalisations, souvent, sont des moments où il y a une petite inflexion, une aggravation peut-être de la maladie.
Oui.
Parce que c'est pas l'idéal pour eux. Mm-hmm. C'est vraiment s'il y en a besoin.
Je crois que ça vient parler aussi un peu de ce qu'est le centre, en fait. Nous, professionnels du centre, c'est vrai qu'on n'a pas vocation à faire de l'intervention à domicile. On a un but d'évaluation, certes d'accompagnement sur des évaluations, notamment je pense au rôle du kinésithérapeute, du coup, où en fait on voit régulièrement les patients sur des hospitalisations à la journée qui permettent du coup de faire un bilan de ce qui se passe au sein de leur pathologie et des besoins qu'ils peuvent avoir du coup à différents niveaux, et d'où la pluridisciplinarité de l'équipe, parce que du coup le bilan va être très complet au niveau diététique, au niveau kinésithérapeutique, ergothérapeutique, psychologique, neurologique. Mais après, effectivement, on s'appuie énormément sur les dispositifs qui sont présents au domicile, parce qu'on accueille des patients qui viennent de tout Occitanie. Donc du coup, en fait, on peut avoir des patients qui viennent de l'Ariège, on peut avoir des patients qui sont même plus dans l'Aude. Ça serait trop complexe pour nous d'avoir à gérer des déplacements.
Oui.
Donc on fonctionne en corrélation avec toutes les institutions et associations qui gravitent autour de chaque département, en fait.
Je me demandais si vous avez cette action auprès des patients et de leurs proches, j'imagine aussi. Est-ce que vous avez aussi des actions auprès d'autres professionnels pour les aider à comprendre ce qu'est cette maladie? Parce que je suppose que ce n'est pas du tout une évidence pour tout professionnel d'accompagnement de la SLA.
Déjà, au cas par cas, si je puis dire, chaque professionnel qui vient, qui prend en charge un de nos patients, on essaye de faire passer, en tout cas, l'information, nos mails, nos téléphones, pour qu'ils nous appellent s'ils ont des questions de façon précise. Notre kiné, par exemple, se met très, très, très facilement en relation avec les kinés libéraux pour adapter la prise en charge, qu'elle soit le plus affinée pour chaque patient. Mais c'est pareil pour tout corps de métier qui gravite autour d'eux. Donc ça, déjà, au cas par cas. Et après, de façon plus large, ça fait partie du rôle du centre aussi, de pouvoir donc faire des cours, même à la fac ou l'école. Oui, on fait chaque année ergo et kiné.
D'accord.
Avec Harmonie, donc on donne aussi un cours à la demande sur des écoles d'infirmières.
Et d'accord.
Il y a des choses comme ça qui peuvent se créer, des petits projets. Et on a une journée aussi on essaye chaque année de refaire, une journée régionale. Régionale, c'est ça.
D'accord.
Pour accueillir les HAD, hospitalisations à domicile, infirmières libérales, les réseaux. Une journée où on traite certains thèmes autour de la SLA.
D'accord. Et puis se retrouver aussi entre professionnels qui accompagnent ce type de patients, ça doit être très riche de pouvoir échanger des pratiques, discuter certaines questions.
C'est ça, récupérer leur vécu, leurs expériences, leurs interrogations, parce que c'est vrai quand on prend quelqu'un en charge comme ça, de façon régulière, quotidienne, parfois pour les infirmières libérales, elles ont plein de questions. Et des fois, d'en parler avec nous, de prendre un peu de recul, et ça leur permet aussi de mieux vivre aussi la prise en charge.
Finalement, on dit centre ressources, mais c'est véritablement ça. C'est-à-dire, on peut venir piocher des ressources comme à une bibliothèque, quoi. Hein, c'est ça, vous êtes à la disposition des autres, vous répondez aux questions, vous orientez. D'accord, donc c'est assez particulier dans le milieu du soin, parce que vous avez une position vraiment au centre de plein de réseaux. quoi. Réseau soignant, réseau associatif.
Complètement.
La SLA, je le disais tout à l'heure en introduction, elle est souvent prise en exemple par les partisans d'une loi sur l'euthanasie. Est-ce que ça veut dire, enfin, je me suis posé la question, si faire de la SLA une argumentation, enfin, s'en servir de cette manière-là, ça, est-ce que ça veut dire que les personnes qui en souffrent expriment plus souvent des demandes de mort? Est-ce que vous pensez que l'idée d'une perte de sens liée à cette maladie, qui est beaucoup mise en avant justement dans ces discussions-là, je suppose qu'encore une fois, ça va dépendre des patients, hein, mais est-ce que vraiment ça vous paraît légitime de faire de ces patients une espèce de...
D'étiquette.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
Il nous arrive régulièrement d'échanger sur la mort avec nos patients parce que ça fait partie des questions existentielles. Parce que c'est une maladie qui aménage aussi des éléments d'un vécu extrême et qui du coup au travers d'une paralysie qui est progressive va questionner forcément le sens que la personne met dans sa vie vis-à-vis de ces changements qui s'opèrent sur son corps. Est-ce qu'elle va être en capacité de pouvoir continuer à être heureuse malgré le fait que son corps vive une tétraplégie totale et complète? C'est une question évidemment qui revient. Notre impression est souvent que lorsque la personne nous verbalise qu'elle veut mourir, c'est souvent plutôt un appel à l'aide. Que c'est une manière pour elle de venir rechercher un soutien qui peut être moral, un soutien qui peut être en termes de ressources autour de l'environnement qui constitue le support de son quotidien, je dirais, parce que je crois qu'il y a des lacunes encore qui font que certains des patients n'ont pas forcément une qualité de vie qui leur correspond, mais faute de moyens aussi. Et du coup, ça soulève des questions qui sont assez éthiques derrière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a une vraie méconnaissance de ce qui existe concernant la loi française dédiée à l'accompagnement de la fin de vie. Et qu'au final, au travers des outils qu'on a déjà, des directives anticipées qui permettent à la personne... de venir construire ce qu'elle souhaite de sa fin de vie ou de ce qu'elle souhaite pas, de ses limites, de ses possibles, de la notion de sédation profonde et continue qui permet de soulager des souffrances physiques et morales si jamais elles sont présentes. Et malgré le fait que la douleur physique n'est pas forcément un élément qui ressort dans cette pathologie.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander justement, parce que c'est pas ce qu'on trouve dans la littérature, en tout cas la douleur.
Elle est peu verbalisée et peu présente, peut-être au niveau de formes spastiques, peut-être, me corriges.
Si... Plutôt des formes spastiques, après sur le plan de la douleur, ou ce que peut entraîner peut-être l'immobilisation prolongée, ce genre de choses. Et il y a des traitements à mettre en place, mais c'est pas le plus, de façon plus importante, c'est plutôt de l'anxiété, des choses comme ça, qui, pour eux, en fait, il n'y a rien qui va venir soulager ça.
Oui, parce qu'en fait, pour revenir sur les symptômes qui sont progressifs, c'est comme une perte de contrôle sur son propre corps, quoi, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on parle de sentiment d'enfermement en soi-même. Enfin, je parle de ce que j'ai lu.
On ne peut pas dire qu'il n'y a pas correct. Du tout de douleur, mais c'est des douleurs qui sont entraînées et qu'on arrive quand même à gérer avec des traitements, des choses qui existent. Hein.
Oui.
Selon si le patient veut ou pas l'utiliser.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est cette idée souvent d'enfermement, de ne pas pouvoir faire ce qu'il faisait avant. C'est,
oui.
C'est ces choses-là qui sont des fois le plus... Et bien sûr, de se projeter dans la mort, enfin, ce qui peut arriver et qui est extrêmement dur et anxiogène pour eux.
Donc, même dans la vie avec,
oui, et la vie avec
une
aussi,
tétraplégie, alors qui se pense et qui se réfléchit.
Oui, c'est ça.
Vous parliez d'une perte de sens. Alors pour certaines personnes, effectivement, il va y avoir une vraie perte, mais qui peut aussi se transformer en quête de sens.
Oui.
Parce que derrière, en fait, c'est une vie à repenser avec cette pathologie. Venir s'approprier ce qu'elles sont en train de vivre, bah, ça vient de dire repenser sa parentalité, réinventer son couple. Ça vient aussi poser des éléments derrière sur comment faire appel à ma créativité, en fait, pour retrouver une vie qui puisse être de qualité pour moi, malgré le fait qu'effectivement, mon corps ne soit pas le même qu'avant. Je crois qu'on a des personnes qui ont réussi à trouver cet équilibre-là.
Quelques-unes, mais on s'est rendu compte souvent que c'était, faut parler de facilité, c'est pas facile, mais plus à leur portée, à la portée de personnes qui avaient déjà cette capacité créative, qui étaient plutôt intellectuelles aussi. Les personnes qui ont été toujours très actives dans leur vie, mais de façon... Vous l'avez très bien décrit hein, dans votre présentation, mais de la performance, de toujours faire, toujours être en activité toute sa vie. Ces personnes-là, c'est beaucoup plus difficile de transformer, du coup,
et oui.
ce qu'elles ne sont plus capables de faire, et elles restent souvent bloquées sur cette idée de ne plus être capables de recenser le nombre de choses qu'elles ne peuvent plus faire, que de voir encore celles qu'elles peuvent faire. Mais ce qui est tout à fait... ce qui peut être normal, hein, enfin, on est d'accord. Mais voilà, c'est pas tranché, hein, c'est pas deux écoles, c'est pas deux façons de recevoir et de vivre la maladie, mais en gros, il y a tout un panel et on avait remarqué ça, que c'était...
Le sentiment d'impuissance peut être perçu de manière plus importante, oui, par ces personnes qui seront plus en difficulté, effectivement, pour transformer, j'allais dire.
S'adapter.
Exactement.
Et en même temps, j'imagine que pour tous, il y a des hauts, des bas, enfin, que c'est variable.
Tout à fait.
Et justement, j'allais vous parler du livre qui est paru en 2023, tout récemment, un peu plus loin, qui a été écrit par Pone, le beatmaker historique du groupe Funky Family, qui est lui-même atteint de SLA depuis 2015. Lui, on voit bien qu'il a une très forte envie de vivre, mais c'était quelqu'un qui créait déjà, enfin peut-être que ça correspond au profil que vous évoquiez. Et dans ce livre-là, ce qui peut être surprenant lorsqu'on ne connaît pas cette maladie, c'est que Pone exprime son refus de ne pas être réanimé. C'est-à-dire qu'il explique qu'il a une volonté absolue de continuer à vivre, quelles que soient les circonstances, que peut-être... On a le sentiment en le lisant qu'il a trouvé une manière de s'adapter dans laquelle il ne voit pas à quel moment ça devrait finir, finalement, quelque chose comme ça. Donc, ça vient complètement contredire tout le débat en disant la SLA mérite qu'on légifère sur l'euthanasie, en fait. Parce que quand on lit ça, on se dit, mais ça, là... Ça ne correspond pas du tout à l'image habituelle sur cette maladie.
Et là où je vous rejoins, c'est que je trouve dommage, en gros, parler de est-ce que doit-on poser cette étiquette de la maladie de la SLA pour pouvoir atteindre, légiférer sur l'euthanasie. Ok, on en entend beaucoup parler, je pense que c'est quand même une avancée et que ça fait partie des choses à travailler. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'elle ne puisse pas véhiculer en termes médiatiques et aux yeux de la loi, de ne pas retravailler des choses pour accompagner le patient dans sa maladie, plutôt que seulement, alors qu'on voudrait seulement l'accompagner dans sa mort.
Oui,
ça peut... Au quotidien, nous, dans le centre, c'est ce à quoi on se confronte. Tous les jours, c'est de trouver les meilleures façons de les accompagner. Et on est souvent au pied du mur parce qu'il y a des choses qui existent, qui ne sont pas, équitables en termes de chaque patient, selon leur âge. Il faut savoir que les patients qui sont atteints de SLA depuis de 60 ans n'ont pas les mêmes aides budgétaires que des patients âgés de moins de 60 ans. Ça, c'est quand même quelque chose qui existe depuis des années
et
qui sont très problématiques pour certaines personnes.
C'est-à-dire que l'accès aux équipements, par exemple, n'est pas aidé de la même manière.
Tout à fait. Et les équipements qui peuvent aider à garder une autonomie au domicile et coûtent très cher.
Oui.
Et un patient de plus de 60 ans, il aura très peu d'aide vis-à-vis d'un patient de moins de 60 ans.
D'accord.
Ça dépend aussi... je pense qu'il y aurait des choses aussi à travailler, à faire remonter, sachant ce qu'est le contexte de la santé aujourd'hui, mais c'est dommage de s'arrêter juste à l'euthanasie. Il y a la recherche aussi, nos patients, ils sont... Quand ils se battent de façon très forte, c'est pas juste pour l'euthanasie. Souvent, c'est plutôt la recherche. Ce dont je me suis aperçue, c'est qui remonte énormément avec beaucoup de colère. Et c'est le budget qui est alloué à la recherche, par exemple.
Oui.
C'est ces choses-là qu'il faut aussi bouger. Je dis pas du tout la loi sur l'euthanasie et faire avancer les choses pour le confort et que les gens puissent imaginer qu'ils seront bien pris en charge, même si, comme on dit, il y a des choses qui existent déjà. Mais pourquoi laisser tomber le reste ?
Oui, finalement, on voit toutes les actions publiques qui sont, comme j'en parlais là dans l'introduction, qui visent à trouver des fonds pour la recherche, mais finalement, c'est des fonds privés quand même, beaucoup. C'est un peu étonnant.
Oui, c'est ça. Parce que, comme on disait, une maladie rare... même si c'est la première des maladies rares, ne touche pas assez de monde pour pouvoir mériter un budget plus important, des fois, je ne sais pas.
En fait, ce qu'on peut dire, c'est que quand la personne a des réponses sur ce qui est pour elle une vie de qualité et qu'elle se sent soutenue, qu'elle a un environnement stable, Pone a un environnement familial très soutenant, il a un relais de professionnels autour de lui qui peut aussi être présent. Il y a un accompagnement dédié qui est aussi de qualité derrière. Et du coup, on se rend compte qu'effectivement, on peut avoir un certain nombre de personnes qui veulent vivre avec un accompagnement dédié qui soit qualitatif par rapport aux réponses qu'ils souhaitent à leurs besoins. Ça reste une vie différente, mais ça peut rester une vie qui... peut être riche aussi pour ceux qui ont pensé et réfléchi et qui trouvent un sens, tout simplement.
Je vous remercie beaucoup, Sophie Dufaux et Harmonie Lefebvre.
Merci à vous.
Merci à vous.
C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse-Jean Jaurès.